Eh bien bonjour, vous êtes sur Glissando, vous savez c'est votre émission de musique classique et pas que, sur Graphite 94.9 FM. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver, chaque mercredi pour moi c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir et j'espère que pour vous ça l'est aussi, sinon faites-le savoir. Alors je vous ai déjà fait voyager, hein. Je vous ai emmené aux États-Unis, en Italie la semaine dernière. Eh ben cette année n'importe quoi, c'est ce jour, ce mercredi matin, je vous emmène en Russie en passant par la Pologne. Alors on va retrouver en fait un compositeur qui s'appelle Henryk Wieniawski. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de son siècle, il est né en 1835 et mort en 1880. Vous voyez, c'est vraiment le 19e siècle. Ben en fait, il est né dans une famille juive polonaise très cultivée. Son père était un chirurgien renommé et sa mère, qui s'appelait Regina Wolf Wieniawska, était une très bonne pianiste. Ils aimaient bien recevoir des artistes et des écrivains chez eux et ils organisaient très souvent des concerts et des rencontres littéraires. Donc il a été baigné vraiment dans ce climat intellectuel familial qui était, on peut dire, propice au développement artistique de lui-même et de ses deux frères. Henryk était quand même un enfant prodige. Âgé à peine de 8 ans, il est rentré au Conservatoire de Paris pour étudier le violon dans la classe du célèbre professeur Joseph Massard. Il y termine ses études 3 ans plus tard, en remportant à l'âge de 11 ans le premier prix de violon. Il est le plus jeune lauréat du conservatoire. Ouais, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Après des études de composition, toujours au conservatoire, il a achevé définitivement ses études l'année suivante. Il a 15 ans. Il entamait par la suite une brillante carrière de concertiste. Il allait en Russie, bien sûr, et puis aussi à Bruxelles, à Londres, à Paris. Et en 1859, il est nommé premier violon à la cour du tsar à Saint-Pétersbourg et soliste de la société musicale russe qui, grâce aux efforts conjugués de plusieurs grands musiciens, dont Wieniawski lui-même, deviendra le prestigieux conservatoire de Saint-Pétersbourg. Alors, je vais vous faire écouter une de ses œuvres qui s'appelle « Légende ». « Légende », c'est une pièce pour violon solo avec accompagnement d'orchestre, mais elle peut être aussi accompagnée par le piano. Et elle est dédiée à Isabella Hampton. Elle a joué cette œuvre un rôle essentiel dans la vie de Wieniawski. Elle l'a aidé à assurer son engagement, justement, auprès de cette fameuse Isabella Hampton. Car les parents d'Isabella n'éprouvaient pas du tout l'union de leur fille avec Wieniawski. Mais quand ils ont entendu cette pièce et la virtuosité à laquelle elle est jouée, ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont offert leur bénédiction au jeune couple qui s'est marié en 1860. Eh bien sûr, ça va être Yehudi Menuhin, le grand violoniste, accompagné par l'Orchestre Philharmonia, qui vous présente cette légende pour violon et orchestre, opus 17.
Thank you.
Yehudi Menuhin, grand violoniste, prodige aussi, puisque très jeune, il a fait justement des concerts, et donc qui interprétait cette légende de Wieniawski, un autre prodige. Voilà, et du coup, je vous ai dit, hein, Wieniawski, il est né en fait en Pologne, mais il est venu quand même après aussi en Russie, puisque tel est mon propos, puisque c'est grâce à lui aussi que le conservatoire de Saint-Pétersbourg est devenu prestigieux. Et justement, qui est-ce qui est né à Saint-Pétersbourg? Eh bien, c'est un Russe, c'est Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui est né à Votkinsky en 1840. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même époque justement que Wieniawski, qui est né en 1835. Il a été un compositeur, bien sûr, incontournable du romantisme russe et parmi les plus grands symphonistes, je dirais, de sa génération. Il avait fait des études de droit tout en continuant la musique. Et il a commencé en fait à gagner sa vie en tant que fonctionnaire au ministère de la Justice de Saint-Pétersbourg. Et vous entendez d'ailleurs par rapport à toutes mes émissions de Glissando que beaucoup, beaucoup de très grands musiciens ont été obligés, soit par leurs parents, soit parce que financièrement il le fallait, à faire des études. Mais c'était vraiment la musique qui était leur passion. Et une passion, ça ne s'arrête pas comme ça. Ce n'est pas possible. Alors Tchaïkovski, en fait, il intègre en 1862 le nouvel institut musical qui avait été créé par Anton Rubinstein et qui deviendra justement le conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il suit les cours d'harmonie et de contrepoint. Voilà, c'est ça qu'on fait d'ailleurs en général pour devenir chef, compositeur. Et il obtient un diplôme. Il décide alors justement de se consacrer exclusivement à la musique. Et dès 1866, il occupe le poste de professeur d'harmonie au conservatoire de Moscou. Dans les années 1868-74, en plus de l'enseignement et de ses activités, on va dire, liées à la composition, il a aussi signé des critiques musicales dans la presse moscovite. Écrivant à son frère Modeste, en janvier 1877, Tchaïkovski mentionna que le violoniste Iosif Kotek lui avait commandé un morceau pour un prochain concert. 4 jours plus tard, celui-ci écrivait à Tchaïkovski. « Merci d'avance pour la valse. Ce sera sûrement merveilleux, comme tout ce que vous composez. Ce sera une pièce pour impressionner tout le monde. Eh bien, vous allez en juger par vous-même. C'est de nouveau alors, un grand violoniste qui n'est plus de ce monde, mais qui était David Oistrakh, très très grand violoniste russe, accompagné par Vladimir Yampolsky au piano pour justement jouer cette valse Scherzo de Tchaïkovski. Thank you. Bien, cette brillantissime valse Scherzo de Tchaïkovski était interprétée par David Oistrakh, je vous disais qu'il était un très très grand violoniste. Vous voyez, je vous donne que des grands violonistes aujourd'hui. Voilà, David Oistrakh. Avant, il y avait Yehudi Menuhin. Et vraiment, bah, ces personnages qui sont plus de ce monde, mais qu'on n'oublie pas parce que c'était vraiment des grands monsieur du violon. Alors, je pourrais vous faire passer d'autres musiques de Tchaïkovski, c'est sûr, comme son célèbre concerto de violon, puis il y a bien d'autres choses. Mais je voudrais vous faire un petit, comment dirais-je, un petit balayage, voilà, de musiciens russes. Donc, cette fois, je vous emmène rencontrer Nikolaï Rimsky-Korsakov. Eh bien, il est aussi incontournable de la Russie, puisqu'il fut professeur de musique, d'harmonie et d'orchestration et membre du groupe des cinq dont je vous ai déjà parlé il y a quelque temps. Il était issu d'une famille aristocratique, mais il a été élevé à la campagne. Et du coup, très jeune, il a entendu et connaissait du coup très bien les chants folkloriques qui en fait lui ont servi plus tard pour composer ses œuvres. Il a fait, alors à nouveau, décidément, contraint par sa famille, une carrière qu'il n'envisageait pas forcément, mais une carrière dans la marine. Pourtant, comme il était très doué pour la musique, il a étudié, à l'insu de sa famille, le piano et la composition. Et quand il a été officier dans la marine, il a commencé en fait l'écriture de sa première symphonie, qui sera jouée en public pour la première fois en 1865. Il était né en 1844. Je vous laisse faire le compte. Et puis, il a été encouragé, du coup, par ceux qui constitueront plus tard le groupe des cinq, comme Balakirev, Borodine, Moussorgski, César Cui. Et il songe, du coup, sérieusement à refaire, à entreprendre, je me dirais, une carrière de compositeur. Alors, il est devenu professeur de composition et d'orchestration au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, on parle beaucoup de Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et il a été guidé, justement, par Peter Tchaïkovski, dont nous venons d'écouter la valse Scherzo. Et du coup, après, il approfondit ses études musicales. On va dire qu'il a aussi dirigé des différents orchestres dans la marine impériale et aussi pour les concerts symphoniques russes. Une de ses plus grandes œuvres a été Le Coq d'Or, Le Vol du Bourdon, je vous ai fait aussi écouter quand j'avais mon invité il y a quelques semaines. Et puis une œuvre que, j'avoue, j'adore, Scheherazade. C'est une suite symphonique qui a été créée pour les concerts symphoniques russes en 1888. Elle est en quatre mouvements, comportant deux thèmes principaux. Celui de Scheherazade, en fait, qui est symbolisé voilà, par le violon et la harpe. Et aussi le thème du sultan qui est symbolisé par les cuivres. Alors c'est une œuvre qui est assez longue, on ne peut pas écouter que ça. Donc je vais vous en proposer deux mouvements pour vous donner en fait envie d'aller écouter cette œuvre magnifique en live au Théâtre Impérial de Compiègne le mardi 6 juin. Mais ce matin, ce sera la version du London Symphony Orchestra dirigée par André Prévin. Alors je vous ai choisi d'abord La mer et le vaisseau de Sinbad, et vous allez fermer les yeux, vous allez voir, le violon va vous accueillir en douceur, puis l'orchestre qui vous berce doucement, il vous donne l'impression d'être en mer. Thank you. Eh bien, j'espère que vous êtes laissé balancer tout doucement avec ce vaisseau de Sinbad qui était la première partie de Scheherazade. Et là, nous allons retrouver le récit du prince Calander avec le violon solo. Eh bien, ce matin, je ne vous offrirai que deux mouvements de cette magnifique œuvre Scheherazade de Nikolaï Rimsky-Korsakov, parce que sinon, ben voilà, j'ai encore d'autres découvertes pour vous. Et puis, vous avez entendu donc ces belles cordes, ce bel orchestre symphonique que je vous conseille d'aller écouter en live au Théâtre Impérial le 6 juin, parce que ça n'a rien à voir d'écouter une œuvre en live et de l'écouter comme ça, à la radio ou en CD. Et même si vous la réécoutez après, vous verrez, vous aurez plein de souvenirs différents. Et comme il y a beaucoup d'instruments à vent aussi dans l'orchestre symphonique, et des bois, des cuivres, je voudrais faire un petit clin d'œil à deux jeunes hommes qui font de la restauration et de la réparation justement d'instruments à vent et de cuivre aussi, et qui sont formidables. Et c'est un petit atelier à Compiègne qui s'appelle le Pavillon. Voilà, je leur dis bravo pour leur réalisation. Alors, on a encore un petit peu de temps pour rencontrer un autre compositeur qui s'appelle Igor Stravinsky. Alors, Igor Stravinsky, il est né en 1882, donc un peu plus tard que Rimsky-Korsakov, 38 ans plus tard exactement. Il est né à Saint-Pétersbourg, dans une riche famille de propriétaires terriens. C'était le troisième enfant, de quatre enfants, voilà. Et son père était une célèbre basse, donc un chanteur de voix, à la voix basse, comme on appelle ça, du théâtre Mariinsky. Et sa mère était pianiste amateur. Il a appris le piano et la composition en improvisant et sans passer par le conservatoire. Ouais, il était aussi encore un enfant doué. Et encore un père qui est opposé à ce que son fils se destine à la musique, décidément. Mais malheureusement pour lui, son père est mort en 1902. Igor avait alors 20 ans. Il va trouver un nouveau père affectif, on va dire, en la personne de Rimsky-Korsakov, justement, qui va lui donner des cours d'orchestration. Il a été remarqué aussi par Diaghilev, qui était un célèbre impresario des ballets russes, qui fut aussi un de ses pères affectifs, que le destin lui envoie, car celui-ci lui commande un ballet pour l'Opéra de Paris. Ce sera l'Oiseau de feu. Après la première représentation, donc, hein, la première de l'Oiseau de feu dans une chorégraphie de Fokine, Stravinsky devient un personnage du tout Paris. Il fréquente Debussy, qui devient un ami bienveillant. Il fait la connaissance de Picasso et de nombreux artistes et mécènes qui gravitent autour des ballets russes. En 1911, il présente son nouveau ballet Petrouchka au Théâtre du Châtelet. Nijinsky danse Petrouchka. Les costumes et les décors sont d'Alexandre Benois et c'est Pierre Monteux qui dirige. C'est un nouveau triomphe. L'action se passe à Saint-Pétersbourg en 1830. Pendant une fête populaire, la foule se prête à la foire et au milieu de multiples attractions, un magicien attire l'attention. Il joue de la flûte et il donne vie à trois pantins, Petrouchka, la ballerine et le mort. Mort, M-A-U-R-E, hein, pas le mort qui est mort. Voilà, qui entame en fait une danse russe. Donc je voudrais vous présenter justement un extrait de Petrouchka qui est magnifique. Nous nous quitterons donc justement avec cet extrait de Petrouchka qui va être joué par le Philharmonia Orchestra, dirigé par Michael Tilson-Thomas. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu vous cacher mon amour pour le violon. Mais je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles découvertes avec Glissando. À bientôt.